charbon de bois comme source d'énergie pour cuisiner ou chauffer la maison, vous connaissez, mais son utilisation a de graves conséquences sur l'environnement, notamment parce qu'il accentue la déforestation et sur la santé à cause des fumées dégagées. Et bien, il existe une nouvelle solution, le charbon vert, une nouvelle technologie inventée par l'ONG Pro Natura. Avec nous pour en parler, le président de l'ONG Pro Natura International. Bonjour Guy Reynaud.
Bonjour. Alors, dans le monde actuellement, 2 milliards de personnes dépendent du bois issu de la déforestation pour leurs besoins en énergie. En Afrique, par exemple, le bois représente 89% des sources d'énergie et ça a des conséquences évidemment terribles pour l'environnement et pour la santé des personnes qui l'utilisent.
Oui, absolument. C'est un énorme problème qui est relativement ignoré jusqu'à maintenant. C'est le problème de l'augmentation importante de la population en Afrique. Bien que l'Afrique, on y reviendra, peut se nourrir, peut se développer et peut augmenter encore énormément sa population, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Mais il n'empêche que des années récentes, la population a quasiment doublé. Et la pression sur les forêts pour faire du charbon de bois, pour faire la cuisine, a suscité à peu près un tiers de la déforestation, laquelle déforestation, vous savez, à l'échelle mondiale, fait 20% des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, il y a un chiffre qui est incroyable, c'est qu'une tonne de charbon de bois, c'est égal à 5,5 tonnes de bois sec.
Oui,
on voit bien le rapport qui est extraordinaire.
Donc, pour vous donner un exemple très concret, au Sénégal, qui est un pays assez représentatif et assez bien connu des Français, la forêt était à 30 km de Dakar il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle est à 550 km. Et dans moins de 10 ans, il n'y aura plus de forêt du tout.
Et puis en plus, rapidement, mais le charbon de bois, ça a des conséquences sur la santé humaine, notamment avec les fumées qui tuent, selon l'OMS, environ 1,5 million de femmes et d'enfants par an.
Voilà, c'est pas les fumées du charbon de bois, il faut bien voir, c'est les fumées du bois. Parce que les gens dans les campagnes utilisent essentiellement du bois, et dans les villes, sont obligés d'utiliser du charbon de bois parce qu'il y a trop de fumée avec la densité de population, et donc qu'ils utilisent du charbon de bois. Donc c'est les fumées dans les campagnes qui sont toxiques et qui sont cancérigènes et qui sont même mutagènes et qui génèrent environ 1,6 million de morts, essentiellement de femmes et d'enfants, qui restent dans les maisons relativement fumées.
Alors c'est à partir de ce constat que vous avez eu l'idée de créer le charbon vert. Alors expliquez-nous un petit peu.
Alors l'idée c'était de remplacer le bois pour faire la cuisine. C'est une idée qui est apparue chez nous, une stratégie de recherche-développement il y a 14 ans. On a fait un tour d'horizon de tous les travaux qui avaient été faits depuis la première crise du pétrole en 1974 de recherche pour récupérer les déchets agricoles, les carboniser et en faire de l'énergie. À l'époque, on voulait faire tout simplement de l'électricité. Tous ces projets de recherche avaient été des échecs. Même la France a fait beaucoup d'investissements, le ministère de l'Agriculture, c'était des échecs. Et donc moi j'ai eu l'idée de dire, au fond, pourquoi on n'essaye pas de développer une technologie radicalement différente de ce qui a été fait. Il se trouve que, sans rentrer dans les détails, on a trouvé l'idée, on a trouvé au Conservatoire des Arts et Métiers un thésard qui était disponible, que j'ai embauché depuis 14 ans, et a développé cette technologie qui permet en continu de prendre n'importe quel déchet agricole et en faire du carbone végétal qui s'utilise comme du charbon de bois.
Alors justement, pour mieux comprendre le processus de fabrication, je vous propose d'aller au Sénégal, dans la région de Saint-Louis, où la première machine qui fabrique du charbon vert est exploitée depuis la fin 2007. C'est un reportage de Marie-Laure Josselin.
Amadou remplit son sac de balles de riz près de l'hangar où Pyro 6, une énorme machine, est en train de se mettre en branle.
On a 312. C'est bon, on peut démarrer avec les 312. Attends, il met des balles de riz ici. Amadou, tu peux poser, après on démarre. Tu peux voir.
Abdoulaziz qui se présente.
Bon, je suis le conducteur Pyro.
C'est lui qui fait fonctionner la machine. Un monstre qui a coûté 200 000 euros rien que pour la construction. Elle est entièrement financée par du crédit carbone. En clair, et après un petit calcul, il a fallu 5 388 allers-retours Paris-Dakar avec du rachat de crédit carbone pour payer Pyro 6. C'est l'ONG internationale Pro Natura qui a payé et monté la machine à Rosbecchio.
On peut démarrer, quoi, pour commencer à carboniser. Maintenant, avant de démarrer, viens voir, on va enlever le brûleur pour que la chaleur reste là-dedans. Oui, viens voir ici. Comment c'est rouge, on peut démarrer maintenant. Voilà, j'ai 324 degrés. Donc ça commence à rentrer.
Ceux qui rentrent dans Pyro 6 pour se faire carboniser par une pyrolyse, ce sont des balles de riz ou du kifa, ...une sorte de roseau qui pullule dans les eaux du nord du Sénégal. La grosse machine rouge est 100% écolo, Christelle Braun de Pronatura International.
Cette pyrolyse, elle permet de faire du charbon en évitant les procédures traditionnelles qui sont très très néfastes pour l'environnement, en réutilisant justement ces gaz qui sont émis lors de toute combustion en fait. C'est tout l'intérêt de la machine, parce que s'ils étaient rejetés, ce ne serait pas du tout bénéfique pour l'environnement, bien au contraire. Alors que là justement, on empêche cette émission de gaz à effet de serre. C'est écologiquement propre.
Ça commence à se carboniser en bas. Viens voir. Tu as du feu ici. Et ça descend en bas. Donc maintenant, on peut éteindre le brûleur. Je peux travailler comme ça jusqu'à 4 heures sans allumer le brûleur.
Autre avantage, une fois la machine préchauffée, le processus produit sa propre énergie. Il est pratiquement autonome.
Regarde, ça commence à sortir quoi. C'est noir, donc c'est carbonisé.
À sa sortie, la poudre de charbon est soit transformée en briquettes ou directement mise en terre pour fertiliser le sol. Pyro 6 est fonctionnel depuis plus de 6 mois. La production moyenne est d'une tonne par jour. Dans le coin de l'hangar, le stock de charbon vert atteint le plafond. Difficile de l'écouler, comme l'explique le gérant de l'usine, Abdelkader Ndiaye.
Voilà, à partir de la top, c'est parti. On commence à fabriquer des briquettes maintenant.
Ça, c'est une lutte qui n'est pas gagnée d'avance, hein, parce qu'il faut vraiment sensibiliser, aller dans les coins les plus reculés, revenir sur Dakar, aller dans les régions, expliquer aux gens que ce charbon vert, c'est un charbon qui n'est pas issu de la déforestation. Ils sont sceptiques parce qu'ils se demandent est-ce que ce charbon-là, est-ce qu'il n'en émane pas des gaz qui peuvent nuire à la santé des utilisateurs. Je pense qu'il faut tenir en compte tout cela et essayer d'aider ce charbon-là pour qu'il fasse son petit chemin. Quoi.
Ce charbon vert est pourtant bien moins cher que le charbon de bois. Mais il est difficile de lancer le charbon écolo, surtout dans le milieu rural. Paul Ndiaye est enseignant au département de géographie de l'université Cheikh Diop de Dakar.
Je n'y crois pas trop parce qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les deux sources de fabrication du charbon. La première source, elle est gratuite pour ceux qui font le charbon à partir du bois, alors que la deuxième source, elle est à prix coûtant. Personne ne va acheter ce qui est éventuellement disponible à côté. Ce type de produit répondrait plutôt à des besoins citadins qu'à des besoins ruraux. C'est difficile à faire admettre une étiquette, un label bio. Pour quelqu'un qui a des soucis quotidiens là, de dépenses, je crois que c'est un idéal, c'est pas une réalité.
Le conducteur de la machine, Aziz, était sceptique au début. Maintenant, il est acquis à la cause du charbon bio.
Je ne le croyais pas, mais dès que j'ai vu la machine et comment on travaille pour faire le charbon, déjà je le crois. Et la population aussi le croit. Ils commencent à acheter le charbon. Et pour le faire savoir ça, c'est un peu difficile. C'est difficile quoi, il faut une vraie marketing.
Alors Guy Renaud, on vient de l'entendre, hein, il faut sensibiliser la population à l'utilisation de ce charbon vert, c'est ça le nouveau défi.
Oui, il faut les sensibiliser, mais la sensibilisation ne va pas être très difficile, tout simplement parce qu'il y a une pénurie de charbon de bois à l'heure actuelle en Afrique. Je rappelle que le charbon de bois, c'est le deuxième plus gros business en Afrique après le pétrole, hein. Donc c'est devant les minéraux, les l'or, etc. Et il y a une pénurie et les prix ont augmenté de 25% depuis le début de l'année au Sénégal et dans la région. Une famille moyenne à Dakar dépense plus de 30% aujourd'hui de ses revenus, les revenus de la famille pour acheter le charbon de bois. Donc, de toute façon, ce produit va se développer parce qu'on le vend à l'heure actuelle deux fois moins cher. À la limite, il pourrait être vendu encore moins cher que le charbon de bois. Donc, pour des raisons économiques, comme c'est un produit performant, qui a des performances égales à celles du charbon de bois, si vous avez un produit d'égale performance, d'égale qualité, qui est deux fois moins cher, vous achetez le produit deux fois moins cher.
Et alors, il y avait une remarque dans le reportage, c'est que c'était plus à usage urbain que rural.
Oui, c'est ce que je disais au début. Le charbon de bois est utilisé essentiellement en ville parce que les gens ne peuvent pas utiliser du bois et puis le bois prendrait trop de place. Enfin, mais dans les campagnes, les gens continuent encore à utiliser du bois tant qu'il y a du bois. Mais ça durera ce que ça durera. Ça durera certainement moins de 10 ans.
I'm again to gain.
Non,
non, non.
C'est pas du vent.
And while again to Mortan we safnama Mortan we sultan ungalam Senna de kubuis Boru tefis boru gej Guru jigen And mwitaw ta wumeti Mbam bilav
C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons aujourd'hui d'une nouvelle source d'énergie domestique, le charbon vert, qui a d'autres utilisations possibles, Guy Reynaud, notamment dans le domaine de l'agriculture où il peut être un très bon fertilisateur de sol.
Oui, le charbon vert, c'est une innovation technologique. En termes d'utilisation agronomique, c'est pas tellement une innovation puisque les Indiens précolombiens en Amazonie avaient trouvé l'utilisation du charbon de bois sous forme de poussière il y a 10 000 ans en tant que fertilisant agricole. Fertilisant, c'est pas un bon terme parce qu'on a l'impression que c'est un engrais qu'on doit mettre tous les ans ou tous les mois et qui est consommé par la plante. Non, le charbon vert sous forme pulvérulent mis dans le sol.
On appelle ça du en poudre,
on appelle ça du biochar, et c'est un catalyseur, c'est-à-dire ça ne se consomme pas, on le met une seule fois, et ça stimule la productivité du sol, ça stimule le métabolisme du sol, ça stimule la microfaune, la microflore du sol, et la plante exploite beaucoup mieux les nutriments du sol, et la productivité augmente dans un rapport facilement de 2 à 3, toutes choses étant égales par ailleurs.
Alors, pour comprendre les multiples applications dans la vie quotidienne, je vous propose d'aller à Rosbetio, au Sénégal, où un projet pilote a été lancé en 2008. C'est un reportage de Marie-Laure Josselin.
Dans sa petite cour à l'entrée de Saint-Louis, Kumba, une jeune maman de 26 ans, replace le bois qui brûle sur son fourneau. Du bois en remplacement du charbon vert qu'elle utilise depuis qu'elle l'a découvert, mais ses stocks sont vides, tout est parti rapidement.
Je l'ai vu dans la télé, mais après, je l'ai connu par Christine et je l'ai dit, je vais l'essayer. Il m'a donné ça, je l'ai donné aux voisins, ils ont dit c'est bon et j'ai dit il faut l'amener pour que je le vende. Et ça n'avait pas duré et c'est fini. Mais ça a marché.
Elle est l'une des premières utilisatrices du charbon vert de l'ONG Pro Natura. Sa première motivation, son prix. 3 fois moins cher que le charbon noir habituellement utilisé au Sénégal par la majorité de la population.
Oui. L'autre charbon, le kilo, c'est 300 francs. Le charbon vert, le kilo, c'est 125 francs. C'est moins cher.
Outre le prix, c'est aussi la qualité de ce charbon qui l'a convaincu, explique Kumba. Son fer à repasser à la main, un fer qui fonctionne au charbon.
C'est plus bon pour le repassage parce qu'il n'y a pas de fumée. Et si l'autre charbon, s'il y a de fumée, si tu fais le repassage, ça sent sur les habits. Il est plus facile à allumer que l'autre. Et c'est plus économisant parce que ça... Si tu commences à faire la cuisine, tu peux laisser ça et revenir faire la cuisine sans qu'il s'éteigne. Il ne s'éteint pas vite comme l'autre.
Bonjour.
Comment ça va? Ça
va bien vous?
Alhamdulillah, Nissan.
On est où ici?
À Rosbetio, chez Pape Dembaba. Vous venez.
Une grosse demi-heure de route plus tard, Pape Dembaba,
électricien et à la fois paysan,
fait visiter son enclos avec ses bêtes.
J'ai fait un peu d'embouche bovine et j'ai fait un peu aussi des moutons à...
Pape Dembaba est l'agriculteur qui a accepté d'expérimenter le biochar sur une partie de ses terres.
Ben, actuellement j'ai 17 hectares. 17 hectares déjà aménagés et j'ai fait du riz actuellement, de l'oignon et un peu de tomate. Oui, surtout l'oignon. Compte tenu de l'expérience que nous faisons actuellement avec ProNatura, c'est à base de biochar, de compost.
On va aller voir.
On peut aller sur place voir. Voilà en fait notre domaine. On est au milieu des champs. Les champs sont là, on peut aller.
Devant lui, des rizières vertes qui côtoient des champs d'oignons où les fleurs en forme de boules blanches contrastent avec d'autres champs désertiques. Dans une parcelle, des pancartes avec des numéros séparent les oignons qui ont poussé avec ou sans biochar.
Les résultats que nous avons, vous les apercevez vous-même. Regardez ces oignons, comment ils sont gros par rapport aux autres. Si vous comparez l'expérience par rapport à l'engrais qui a été exploité de manière un peu chimique, donc on se rend compte que l'expérience que nous sommes en train de faire a réussi de manière extraordinaire.
L'équation n'est pas si simple. Il ne suffit pas seulement de mettre de la poudre de charbon vert sur le sol, comme l'explique Christelle Braun de ProNatura.
C'est pas un fertilisant direct, c'est-à-dire qu'il ne donne pas lui-même les nutriments, mais par contre il permet de les retenir dans le sol et donc profite plus longtemps aux racines des plantes, ce qui permet un meilleur développement. Et donc l'avantage aussi, c'est que ça reste sur plusieurs années. Et donc forcément, pour les agriculteurs, c'est très intéressant économiquement, puisqu'ils en mettent une fois dans le sol et ça dure. Donc ça permet bien sûr d'économiser les autres fertilisants.
Le biochar n'est pas une technique nouvelle. Ce qui est nouveau ici, c'est que tout le processus est bio. Christelle Braun.
Un inconvénient du biochar actuellement, c'est qu'il y a peu de méthodes de production propres. C'est-à-dire que si on fait du biochar avec du charbon de bois, comme le charbon de bois est produit de manière traditionnelle dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est-à-dire en coupant les arbres, ce qui augmente la déforestation, et en utilisant des fours qui ne seront pas du tout efficaces et donc qui rejettent beaucoup de gaz à effet de serre, ce serait un désastre environnemental. Donc il faut faire très attention. Le biochar, c'est bien, mais produit de façon propre.
La récolte va se faire bientôt. Quand on regarde la taille de ces oignons et quand on regarde l'oignon lui-même, on peut dire que ça doit être assez intéressant. Du point de vue goût, je n'ai pas encore goûté, mais je sais que apparemment, c'est un oignon qui me semble assez bon pour le plat.
Pape Dembaba contemple ses champs. Malgré les réticences de nombre d'autres agriculteurs, lui croit au biochar.
Du point de vue économique, c'est un moindre coût. Du point de vue santé, c'est déjà intéressant. Personnellement, j'exhorte à tous les Africains de s'orienter vers cette agriculture à faible coût. Est bon pour l'environnement et également bon pour notre santé.
Il y croit tellement qu'il a décidé de faire du riz bio à la prochaine saison.
Je suis en train d'évacuer de chez moi du compost pour me préparer à faire le bio. Parce que je vois que la porte de sortie pour nous autres, c'est vers le bio. Et vers un produit qui est presque gratuit par rapport à ce que nous achetons.
Et comme un retour à la source de ce biochar, il montre le tifa, cette plante aquatique qui est en train d'envahir le fleuve Sénégal. C'est avec ça que son biochar a été fabriqué.
Guy Reynaud, on vient de l'entendre, hein, l'utilisation du charbon vert, ça peut être formidable pour les agriculteurs.
Oui, c'est fantastique. Vous doublez, vous triplez votre rendement en mettant une seule fois pour, là on pense que c'est une histoire de milliers d'années, le charbon, l'effet catalyseur sur la productivité du sol reste. Et donc économiquement, c'est absolument fantastique.
Plus de fertilisants ?
Non.
Et alors, ce charbon vert, c'est aussi évidemment un superbe outil pour lutter contre le changement climatique.
Mais c'est un superbe outil parce que le charbon vert, c'est du carbone. C'est du carbone qui vient de l'atmosphère. C'est les plantes qui absorbent le CO2 de l'atmosphère, qui retiennent, se construisent à base de carbone. Et ces plantes, on utilise des résidus qui se renouvellent de ces plantes tous les ans, la balle de riz ou le tifa qu'on coupe et qui repousse. Et on extrait le carbone de ces plantes pour faire du biochar, et ce carbone, on le stocke dans le sol pour des millénaires. Donc c'est du carbone, du CO2 qu'on a pris dans l'atmosphère, on a donc réduit la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et au jour d'aujourd'hui, tous les scientifiques qui travaillent sur les changements climatiques, les gens du GIEC en particulier, reconnaissent que c'est une technique extrêmement puissante, c'est le levier en tant qu'approche de lutte contre le changement climatique, c'est le levier le plus puissant qui peut permettre de stocker dans le sol, de réduire la concentration de l'atmosphère en regardant ça en tonnes de carbone, de 1 à 2 gigatonnes de carbone par an. C'est grosso modo un tiers des efforts qu'il faut faire entre maintenant et 2050 pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre.
Alors c'est un petit peu compliqué hein, techniquement à la radio, mais c'est-à-dire que quand on dit que ça stocke du carbone, c'est parce que par exemple, donc les plantes, elles, aspirent le carbone de l'atmosphère, et puis ben, ce carbone, finalement, vous allez le mettre dans la machine, voilà. Et vous allez le transformer en poudre et vous allez l'enfouir dans le sol. Et ça évite en plus cette pratique de justement consommer en plein air en général les déchets agricoles et qui eux participent.
Oui, pour faire simple, la plante absorbe le CO2 de l'atmosphère et nous retient le carbone, et nous ce carbone on le stocke dans le sol, c'est-à-dire qu'on réduit la concentration de CO2 de l'atmosphère de façon très efficace et rentable, puisque ça double ou ça triple la productivité du sol.
Et vous dites une tonne de charbon vert ajoutée dans le sol peut séquestrer au moins 3 tonnes de CO2.
Oui, d'équivalent CO2.
Alors du coup, vous proposez évidemment ce charbon vert sur le marché carbone.
Oui, bien sûr, mais enfin, pour l'instant, on travaille avec dans le marché volontaire, et on a un intérêt particulièrement dans les pays nordiques et en
Alors,
Suède.
Alors, faut expliquer, hein, le marché volontaire.
Oui, c'est le marché volontaire, c'est des gens qui veulent compenser leurs émissions sans y être contraints par le système de Kyoto.
Donc c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui prend l'avion,
voilà,
qui culpabilise.
C'est l'histoire d'Air France qui offre à ses passagers la possibilité de payer la séquestration de carbone ou les émissions évitées pour compenser les gaz à effet de serre qu'ils émettent dans leur trajet. Et c'est fait en particulier avec le charbon vert, la machine dont on parlait tout à l'heure, à Rospetio.
Et alors là, vous visez évidemment, l'agrémentation, je ne sais pas comment on dit, pour mettre le charbon vert sur le marché carbone réglementé.
Voilà, alors le biochar a été la grosse affaire de la conférence de décembre dernier à Poznan, hein, qui était la conférence pour préparer la conférence.
La dernière convention climat.
Voilà, dernière convention climat. C'était une préparation à la grande conférence du mois de décembre de cette année à Copenhague, où en principe les pays doivent s'entendre sur le système après 2012, c'est-à-dire après l'accord de Kyoto. Et le biochar a été accepté à Potsdam comme devant être retenu en priorité en termes de méthodologie et de moyens de séquestrer du carbone à la conférence de Copenhague. Donc voilà, donc puisque il y a une prise de conscience de l'importance du biochar en termes de moyens de lutte contre l'effet de serre qui a été uniquement à la conférence de Potsdam. Donc tout ça c'est très très récent. Pour vous rappeler, les premières publications scientifiques sérieuses à ce sujet remontent à il y a 2 ans et demi dans la revue Nature. Donc.
Alors quelles sont les perspectives de développement notamment pour le biochar, enfin pour le charbon vert sous forme d'énergie pour les populations?
Alors sous forme d'énergie pour les populations, les perspectives sont gigantesques puisqu'il faut remplacer le charbon de bois. À échelle de 10 ou 15 ans, il faut remplacer le charbon de bois.
Donc là, vous allez développer dans le monde entier.
Et il faut faire du biochar aussi. Donc les perspectives, c'est complètement parallèle. C'est la même technologie, c'est les mêmes machines. Hein. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, est-ce qu'il y aura plus de machines sur l'énergie domestique, il y aura plus de biochar, on ne peut pas le dire.
Mais vous allez en produire des milliers de machines.
Des centaines de milliers de machines.
Très rapidement, il va y en avoir bientôt au Mali, au Niger, en Inde, en Chine.
Voilà. Et on est en train de constituer en ce moment...
Oui, en ce moment, une entreprise qui s'occupera...
Une entreprise Charbon Vert International, voilà. Qui va fonctionner dès le mois prochain et qui va prendre en charge le développement de la technologie et la fabrication des machines.
Merci Guy Reynaud d'être venu dans C'est pas du vent, c'est pas de vin. C'est pas du vent, demain partira au Sénégal pour parler de la dépollution de la baie de Han.
À demain, même planète, même heure.